Monseigneur, Mesdames, Messieurs, Frères et Sœurs, nous sommes heureux de nous retrouver pour cette troisième conférence de Carême, offerte et préparée par le doyenné des plateaux de Vesoul. À nouveau, je remercie d'une manière toute particulière cette paroisse, la paroisse de Sainte-Anne-Maillet-Velfaux, qui nous accueille chaleureusement dans cette église. Je n'ose pas, Monseigneur, ni vous présenter, ni vous souhaiter la bienvenue. Voilà, vous êtes notre archevêque, donc je ne vous présente pas. Vous êtes chez vous, donc je ne vous souhaite pas la bienvenue. Quoique, je peux au moins dire que nous sommes vraiment très heureux de vous accueillir. Nous sommes à la fois honorés et ravis de, voilà, que vous ayez accepté de nous donner cette conférence. Vous connaissez cette église, vous y êtes déjà venu. Vous avez déjà présidé l'Eucharistie pour nous ici. Et c'est toujours une joie de savoir que... Eh bien, vous êtes toujours prompt à venir nous rencontrer, notamment dans notre beau doyenné des plateaux de Vesoul. Notre cycle donc se déploie, comme annoncé, sur les cinq dimanches de Carême, avec le thème de fond, la joie, le bonheur, le ciel, un thème assez large, comme nous le verrons à nouveau aujourd'hui. Après, un passage dans les psaumes avec Madame Beneux, ensuite un passage par Saint Marc, le Nouveau Testament, mais plus précisément Saint-Marc avec l'abbé Emmanuel Barsu. Ce soir, c'est donc notre archevêque qui nous introduira au thème de la joie avec un parcours biblique pour voir quels sont finalement les enjeux dans notre vie chrétienne. Je n'en dis pas plus et nous sommes donc partis pour trois quarts d'heure. Un grand merci à vous, Monseigneur, à vous la parole. On réservera à la fin des trois quarts d'heure un petit temps comme à chaque fois, pour les éventuelles questions, remarques, interrogations. Merci beaucoup.
Voilà, merci beaucoup. Franck, est-ce qu'on m'entend? Voilà, je m'excuse de rester assis, mais c'est plus facile pour moi. Mais je sais que tout le monde, je ne vois pas tout le monde, mais j'espère que ça ne permettra pas à ceux qui sont cachés de s'assoupir. Voilà, merci beaucoup, Franck, de cet accueil. Très, très heureux d'être parmi vous ce soir pour faire quelques éléments de partage. Merci de me dire que je suis ici chez moi, mais du coup j'en ai beaucoup de chez moi. Et je ne suis pas sûr de pouvoir tous les habiter. Je ne suis pas sûr de pouvoir tous les habiter. Je crois qu'il y a à peu près 800 églises dans le diocèse de Besançon. Voilà, je ne suis pas sûr de pouvoir les habiter tous. Donc merci m'avoir invité. Vous avez pris un peu un risque en m'invitant, et moi aussi dans le partage que je voulais faire avec vous. Et puis je voudrais commencer simplement par un apéritif qui n'a presque rien à voir avec les propos que je vais tenir par la suite, mais j'ai trouvé ça, peut-être vous l'avez lu dans Magnificat, d'une religieuse qui s'appelle Mère Yvonne Aimée, qui est morte en 1951. Religieuse augustine du couvent. Alors elle donne une recette. Le titre s'appelle « Une bonne mesure d'amour ». Nous sommes dans ce temps de carême, dans ce temps de monter vers Pâques. Donc c'est peut-être pour nous intéressant d'entendre ces quelques propos qui est une recette. Voilà, elle nous dit « Prenez un vase bien propre ». Prenez un vase bien propre. Je sais, quand on fait la cuisine, on essaie de ne pas prendre la vaisselle qui a déjà été utilisée il y a quelques instants. On essaie de faire que les ustensiles de cuisine soient bien propres. Versez-y 1 litre d'eau pure. Ajoutez 500 grammes d'humilité. 500 grammes d'humilité. On commence par l'humilité. 250 grammes de racines de patience. 250 grammes de racines de patience, 250 grammes de racines de douceur. Vous voyez qu'on retrouve sans doute aussi derrière cette recette, si je peux m'exprimer ainsi, la figure de Jésus. On peut vraiment avoir cette image de Jésus dans tout ce qui nous est proposé. Nous étions à la douceur, je pense bien sûr à la béatitude heureux les doux. Remuer. Je pense que la personne savait faire la cuisine. Remuer le tout en y mélangeant 125 grammes de gaieté. 100 grammes de discrétion. 100 grammes de discrétion. 100 grammes d'amabilité. d'amabilité. Amabilité, ça veut dire être dans cette manière d'être avec les autres, d'être aimable. Nous savons bien, nous sommes tous 24 heures sur 24, chaque minute, chaque seconde, aimable. Pas forcément, pas forcément. Chacun pourra peut-être s'y reconnaître. Mets-y un peu de sel et de poivre, quand même, extrait de la bonne volonté. Mettez-le tout sur le réchaud de l'amour de Dieu et laissez bouillir jusqu'à évaporation des mauvaises humeurs. Les mauvaises humeurs. Laissez refroidir et servez avec l'élixir de la vraie charité. Là, j'ai trouvé que c'était une belle recette qu'on trouve dans Magnificat. Alors, je ne suis pas là pour faire de la publicité hein, pour Magnificat, mais j'ai trouvé que c'était, voilà, au moins pour moi, de relire ça de temps à autre, un chemin pour ma propre conversion au cœur de cette démarche de montée vers Pâques, de cette démarche de carême. Voilà. Elle était cette religieuse au couvent de Malestroit, mystique. Elle passa sa vie au service des pauvres et des malades. Elle est entrée dans la résistance durant la Seconde Guerre mondiale et fut même décorée par le général de Gaulle. Encore une fois, je ne fais pas de publicité pour personne. Pour personne. Voilà, c'est simplement, je ne sais pas si on peut dire apéritif ou amuse-bouche, mais c'était pour rentrer plus facilement dans le repas que je vous propose. Voilà, un repas joyeux. Un repas joyeux. C'est vrai que j'ai voulu intituler mon propos ce soir ainsi, le bonheur de la joie est la joie du bonheur. Je sais que le thème qui se développe, qui se déroule au cœur des différentes conférences de Carême, s'attache à la question du bonheur. Et j'ai trouvé que la question de la joie est vraiment une question notamment qui traverse profondément les messages du pape François. J'y viendrai peut-être au terme, de mon propos. Donc le bonheur de la joie. Le bonheur de la joie, c'est bien sûr la joie chrétienne. Qu'est-ce qui nous habite au plus profond de nous-mêmes? Qu'est-ce qui fait que notre vie est une vie qui, au-delà des vicissitudes, au-delà des difficultés, au-delà des interrogations, des souffrances, des douleurs, le pape l'insiste avec force, qu'est-ce qui fait qu'au fond de moi-même, il y a cette joie profonde de la vie chrétienne? La question, elle est ici. Donc le bonheur de cette joie d'être, j'allais dire, croyant en Jésus-Christ au sein d'une communauté chrétienne, pour l'exprimer ainsi, c'est toute la dimension catéchétique de notre vie. Et puis, peut-être aussi la joie du bonheur. Nous sommes faits pour être heureux. Nous ne sommes pas faits pour être malheureux. Nous ne sommes pas faits pour être malheureux. On sait bien, quand on est malheureux, on est malheureux. Et quand on est heureux, la vie, j'allais dire, va mieux, pour l'exprimer ainsi, même si, encore une fois, nous sommes vraiment tous traversés par des éléments qui nous plongent parfois dans la tristesse, dans l'interrogation et dans les questions très, très douloureuses aussi de notre vie, soit pour nous-mêmes, soit au cœur même de nos familles, au cœur même des personnes avec qui nous vivons. Donc, comme je vous le partageais, la joie, il me semble, c'est vraiment le fil conducteur et le fil rouge des messages du pape François. Le pape François, dans la plupart de ses textes, parle de la joie. Et ça m'a beaucoup interrogé, ça m'interroge encore aujourd'hui. De dire, au fond, le pape François, qui connaît peut-être mieux que chacun d'entre nous la misère du monde, qui connaît toutes les tensions qui peuvent exister, qui s'inquiète beaucoup, notamment au cœur même des conflits que traverse notre planète, pour le dire comme ça, je n'ose pas citer simplement l'Ukraine, le territoire de Gaza, le Burkina Faso, qui subit encore des attentats meurtriers, etc., etc. Notre monde est un monde qui va mal, pour le dire comme ça. Alors je vais me permettre d'avoir trois temps dans ma petite présentation. Premier temps autour des Écritures. C'est bien normal de laisser les Écritures nous dire que signifie la joie au cœur même des Écritures. Un élément autour du Concile Vatican II, même si j'ai découvert, ça m'arrive de faire encore des découvertes, que dans Vatican II, il y a peu d'occurrences qui parlent de la joie. Un peu, mais pas beaucoup. Et puis, bien sûr, je terminerai par le pape François développant un peu plus les différents documents qu'il nous a partagés depuis qu'il est sur le siège de Pierre, évêque de Rome. Ça va comme ça? Je n'ai pas de plan B. Hein. Voilà, je n'ai pas de plan B. Voilà. Je vais essayer de faire que le micro tienne pour que vous entendiez bien. Alors, dans la Bible, j'ai pris la version de liturgique, qu'on appelle la version qu'on trouve dans AELF, l'Association pour les textes liturgiques, c'est-à-dire je ne suis pas allé au-delà de ce que nous donne le texte liturgique, hein, j'ai oublié tout mon hébreu, vous m'excuserez, voilà, puis je ne suis pas allé non plus voir le texte grec, j'ai pris simplement les textes que nous donne la liturgie. La première fois on en parle de joie, c'est à la fin de la Genèse, tout à la fin de la Genèse. Nous sommes au chapitre 31, nous sommes vraiment à la fin de la Genèse. C'est la première apparition, on parle de la joie dans la Genèse, et c'est un moment où Laban court après Jacob. Il y a des tensions entre Laban et Jacob, entre Laban qui était le père de l'épouse, d'une des épouses de Jacob, et puis voilà, il se court après. Et ils sont en tension, ils sont probablement également voilà, en colère l'un après l'autre. Et voici ce que dit Laban. « Pourquoi t'es-tu caché pour fuir ?» Il parle à Jacob. « Tu m'as volé. » Il y a beaucoup de choses. « Tu ne m'as pas prévenu. » Et Laban dit « Mais si tu ne t'étais pas caché pour fuir, si tu ne m'avais pas volé, si tu n'avais pas pris ton départ, je t'aurais laissé partir dans la joie et les chants au son du tambourin et la cithare. » On voit que la première manière dont la Genèse part de la joie, au fond, c'est un chant de joie dans cette relation entre Laban et Jacob, puisque Laban reproche à Jacob d'être parti en cachette. Donc on trouvera bien que la joie, c'est souvent, j'allais dire, à la fois autour des chants de joie en l'occurrence, mais aussi dans des célébrations. On trouve aussi, le prochain passage que je voulais partager avec vous, c'est le Deutéronome. N'ayez pas peur, je ne vais pas développer tous les textes de la Bible. Sinon, je crois qu'il faudrait qu'on campe ici. Donc après, nous sommes au Deutéronome, c'est la fête des tentes, une fête importante pour le peuple juif. Et au Deutéronome, le Seigneur dit que tu célébreras cette fête pendant 7 jours lorsque tu auras rentré de ton aire à grains et de ton pressoir. Lorsque les temps de la récolte sont terminés, tu peux vraiment célébrer ce que le Seigneur t'a donné. Et le texte poursuit, nous sommes au verset 14. Tu la fêteras dans la joie, toi, ton fils et ta fille, ton serviteur et ta servante, le lévite et l'immigré, l'orphelin et la veuve qui résident dans ta ville. Tout le monde est invité à participer à la joie de cette fête des tentes qui suit à la fois la moisson et la vendange. Pour dire au fond, le Seigneur nous a donné de quoi vivre, de quoi pour l'année qui vient avoir à manger et à boire, eh bien nous nous réjouissons tous. Et le texte nous donne quelques éléments de tous ceux qui sont invités à se réjouir. La joie, c'est aussi une invitation à se réjouir. Et le verset 15 continue. « Durant 7 jours, tu célébreras la fête en l'honneur du Seigneur ton Dieu, au lieu choisi par le Seigneur, car le Seigneur t'aura béni dans toutes tes récoltes, dans tous tes travaux, et tu seras rempli de joie. » Au fond, le texte du Deutéronome nous dit « La joie, c'est cette manière de rendre grâce au Seigneur pour tous les dons qu'il fait à son peuple. » En l'occurrence, comme il est dit là, les récoltes et les travaux. Après, je passe peut-être dans un livre qui parle beaucoup plus de joie, puisqu'il s'agit du livre de Ben Sira le Sage, ce livre qu'on lit régulièrement, qui est un livre de sagesse, comme le texte le dit, un livre de sagesse qui, d'une certaine manière, prend acte de l'expérience de la vie humaine, tout simplement. Et le livre de Ben Sira le Sage, nous trouvons 24 fois le terme joie. Donc c'est un terme qui est vraiment présent dans le livre de Ben Sira le Sage, mais il n'est pas le seul livre, on verra, où le terme de joie est présent. Alors le texte, le premier chapitre au verset 11, nous dit « La crainte du Seigneur ». La crainte du Seigneur. Vous savez bien que dans la Bible, la crainte du Seigneur est plutôt, j'allais dire, une manière de considérer le Seigneur dans toute sa grandeur, dans toute sa manière d'être auprès de son peuple. Ce n'est pas, je vais dire, la peur du Seigneur, c'est une attitude, j'allais dire, d'honorer le Seigneur. La crainte du Seigneur est gloire, fierté, joie et couronne d'allégresse. On retrouve dans ce texte de Ben Sira, le Sage, cette attitude vis-à-vis du Seigneur qui se trouve, qui est gloire et fierté, joie et couronne d'allégresse. Il y a une forme de, pourrait dire, de tension ou de contradiction. La crainte du Seigneur, on dit, oh là, qu'est-ce qui va sortir? Non, mais ce qui sort, c'est la gloire, la fierté, la joie, la couronne d'allégresse. Quelque chose de très joyeux, de très joyeux. Alors le texte de Ben Sira continue, je vous donne une deuxième citation, Psaume au chapitre 2. Vous qui craignez le Seigneur, vous voyez, on trouve encore la question de la manière de se situer vis-à-vis du Seigneur. Vous qui craignez le Seigneur, espérez le bonheur, la joie éternelle et la miséricorde, et qu'il donne en retour un don éternel pour la joie. Là, nous sommes déjà dans un passage d'une certaine manière, puisque le texte nous dit espérez le Seigneur, la joie éternelle. La joie éternelle, c'est-à-dire celle qui sera donnée dans l'éternité. On pourrait presque dire, en écoutant Ben Sira le Sage, au fond, lorsque nous serons dans l'éternité, l'élément qui marquera notre présence dans l'éternité, c'est la joie et la miséricorde. Alors le texte de Ben Sira le Sage, on m'entend toujours ? Voilà, ceux du fond m'entendent aussi. Voilà, merci pour le technicien. Merci pour le technicien. Le texte de Ben Sira nous dit aussi « Celui qui honore son père aura de la joie dans ses enfants. Au jour de sa prière, il sera exaucé. Celui qui honore son père aura de la joie dans ses enfants au jour de sa prière. » Vous voyez aussi cette invitation à prendre soin de ses parents. Alors aujourd'hui, on dirait sans doute celui qui honore son père et sa mère aura de la joie dans ses enfants, parce que ses enfants pourront aussi l'honorer. Donc il y a cette articulation de génération. Voilà pour le texte de Ben Sira. Alors il y a peut-être une dernière citation, hein, au chapitre 19, « Celui qui trouve sa joie dans le mal sera condamné, mais celui qui domine ses plaisirs couronne sa propre vie. » Donc c'est une invitation aussi, bien sûr, à la conversion. Donc on peut aussi le citer dans le cadre de cette démarche au cœur du carême. « Celui qui trouve sa joie dans le mal sera condamné. » Nous n'avons pas à trouver notre joie dans le mal. C'est important aussi pour nous. Nous n'avons pas à dire « Oh là là, j'ai fait le mal à mon voisin, à ma voisine, qu'est-ce que je suis content, qu'est-ce que je suis joyeux de lui avoir volé ses poules. » Je dis ça comme ça. Il n'y a pas que des poules qu'on vole. Alors dans les psaumes, vous dites bien que les psaumes sont vraiment marqués par cette dynamique de la joie, puisqu'on trouve dans les psaumes 72 fois le terme de joie. Donc les psaumes sont vraiment marqués par cette idée de joie profonde. Déjà dans le psaume 4, tu mets dans mon cœur plus de joie que toutes leurs vendanges et leurs moissons. Donc c'est le psalmiste qui s'adresse au Seigneur. Tu mets dans mon cœur plus de joie que toutes leurs vendanges et leurs moissons. Au fond, tu mets dans mon cœur plus de joie que tous les biens que je peux posséder. Tu mets dans mon cœur plus de joie que tous les biens que je peux posséder. On retrouve, hein, comme je l'ai dit déjà, la dynamique de la vendange et de la moisson. Alors ici, on parle de la vendange avant la moisson. Moi qui suis originaire d'Arbois, ça me va bien qu'on parle des vendanges avant la moisson. Mais il y a peut-être des gens qui moissonnent, je m'excuse pour eux, dans cette assemblée. Voilà, on trouve aussi dans les psaumes beaucoup de moments où on parle de la joie, parce que c'est probablement un élément important de la dynamique psalmiste, de la dynamique des psaumes. Qu'est-ce qu'un psaume si ce n'est un acte de louange envers le Seigneur. Il y a d'autres types de psaumes, mais je pense vraiment les psaumes qui nous permettent de prier et de rendre grâce au Seigneur, c'est vraiment ce lieu où nous avons à percevoir que le Seigneur est avec nous et qu'il est celui qui nous donne cette joie profonde d'être avec lui. Alors on trouve aussi au psaume 21, les pauvres mangeront, ils seront rassasiés, on le chante souvent. Ils loueront le Seigneur ceux qui le cherchent, à vous toujours la vie et la joie. À vous toujours la vie et la joie. Hein, on chante volontiers ça avant le repas. Les pauvres mangeront, ils seront rassasiés, loueront le Seigneur ceux qui le cherchent. Alors il y a aussi une invitation, ou au moins une dans les psaumes, cette perspective de dire au fond, ne nous laissons pas prendre parce qu'il nous entraîne vers le mal. Et le psaume 29 nous dit, sa colère ne dure qu'un instant, par le Seigneur. Voilà, le Seigneur peut-être se met en colère de temps en temps. On verra dans l'évangile d'aujourd'hui que Jésus pique une bonne colère. Je ne vous en dis pas plus. Hein. Si vous êtes à l'Eucharistie ce soir ou demain, j'espère que je vous mets l'eau à la bouche pour entendre l'évangile. Sa colère ne dure qu'un instant, mais sa bonté est toute la vie. Magnifique ça. Avec le soir viennent les larmes, mais au matin les cris de joie. Le Seigneur n'est pas rancunier. C'est déjà pas mal que le Seigneur ne soit pas rancunier. Alors c'est vrai qu'il aimerait bien que nous soyons davantage convertis, davantage ayant le souci des autres, des plus pauvres, mais le texte des psaumes nous dit « La colère du Seigneur ne dure qu'un instant, mais sa bonté toute la vie. » Il faut que c'est important de l'entendre aussi. Quand j'ai lu les lettres des catéchumènes, ils sont un peu plus d'une soixantaine dans notre diocèse, beaucoup s'interrogent, est-ce que le Seigneur me pardonnera tout ce que j'ai pu faire avant d'entrer dans cette démarche de conversion? Souvent c'est des vies cassées, des vies cabossées, des vies où les gens ont fait pique-pan et s'interrogent, est-ce que le Seigneur me pardonnera tout ce que j'ai pu faire? Et je crois qu'on peut leur partager ce texte, sa bonté dure toute la vie, sa bonté dure toute la vie. Voilà, simplement pour ce qu'on appelle le Premier Testament, mais il faut que j'avance, parce que l'heure tourne, hein, si on va être encore là demain. Hein. Voilà, le Nouveau Testament, alors c'est peut-être plus familier pour vous, hein, le premier passage où on parle de la joie, je trouvais que c'était intéressant quand j'ai fait cette recherche. Je ne vous ai peut-être pas dit, hein, c'est 375 fois qu'on trouve le mot joie dans la Bible. 375, donc on peut en avoir un par jour de versets. 366, mais là cette année c'est un peu plus long, je crois, on a un jour de plus. Hein. Donc dans le Nouveau Testament, le premier moment où on parle de la joie, c'est chez les mages, ce qu'on appelle parfois d'une manière un peu erronée les rois mages, les mages. Quand ils virent l'étoile, ils se réjouirent d'une très grande joie, les mages. Quand ils virent l'étoile, ils se réjouirent d'une très grande joie. De voir ce signe dans le ciel, ce signe qui les a conduits à partir au-delà de leurs frontières, à la fois de leurs frontières géographiques, mais pour moi aussi au-delà de la frontière de leur science. Voilà, ils se disent au milieu de la nuit, et voici que l'étoile nous guide, et cette étoile était pour eux une très très grande joie. Et puis nous retrouvons aussi en Saint Matthieu, au moment du baptême de Jésus, je ne sais pas si vous vous rappelez, des cieux une voix disait, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie. Je trouve que c'est un beau passage, il y a une forme de nouveauté ou de perspective différente, hein, puisque cette voix que nous lisons comme la voix du Père, au moment du baptême, dit que sa joie profonde, c'est son fils. Je pense que vous qui êtes parents, votre joie profonde, ce sont vos enfants, même si parfois il y a sans doute des difficultés. Et puis moi je vois surtout les petits-enfants, la joie profonde des grands-parents, qui peuvent très bien dire, voilà, mes petits-enfants, en vous je trouve ma joie. Parce que vous n'avez pas la responsabilité directe des grands-parents, vous pouvez tout donner à vos petits-enfants, ils vous demandent tout, les parents disent, il ne faut pas donner trop parfois, hein. parce que c'est un peu excessif aussi, parce qu'après on ne peut plus rien en faire de nos enfants, mais je trouve que la joie des petits-enfants est extraordinaire chez les grands-parents, qui est différente de la joie des enfants. La joie des enfants, la joie de la naissance, à l'adolescence, il y a parfois quelques crises qui arrivent aussi, hein, c'est pas tout simple, il y en a qui quittent la famille, mais j'entends aussi, moi, des grands-parents qui disent on ne voit jamais nos petits-enfants, pour différentes raisons, et qui sont malheureux de ne pas voir leurs petits-enfants. Me disent, nos enfants viennent chez des voisins à 20 km d'ici, mais on n'a pas le droit d'aller voir les petits-enfants. C'est catastrophique, ça. Donc on pourrait être comme le Père qui s'adresse à nous, dire « Je trouve ma joie en mes enfants et en mes petits-enfants. » La part du Père de dire au fond ce qui le transforme en profondeur, c'est son Fils bien-aimé. Voilà. Alors on trouve aussi ce terme dans la parabole du semeur, je suis toujours chez Matthieu, « Celui qui a reçu la semence sur un sol pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. » Qui reçoit la parole aussitôt avec joie. Est-ce que nous recevons la parole de Dieu avec joie? Est-ce que nous recevons la parole de Dieu avec joie? À la fois, bien sûr, au cours des célébrations liturgiques, mais aussi dans cette invitation qui nous est faite à prendre le temps de prier chaque jour. Que la parole de Dieu nous est donnée véritablement avec joie. Et puis je pense souvent moi aussi à la manière dont nous venons recevoir le Christ au moment de la communion. Je trouve que, je vais le dire comme ça, c'est plutôt des visages tristes que je vois. Les gens sont comme ça. Voilà, je me dis, mais soyons joyeux. C'est vrai, je rêve de donner la communion, de voir en face de moi des gens qui, non pas qui éclatent de rire, c'est pas le but, hein, mais joyeux de recevoir le Christ. Alors on dit, c'est tellement extraordinaire de recevoir Jésus, donc il faut avoir une mine triste. Non, soyons joyeux de recevoir le Christ. Faisons un grand sourire lorsque le prêtre ou le diacre ou un laïc nous donne la communion eucharistique. Quelle joie de recevoir le Seigneur en nous. Quelle joie de recevoir le Seigneur en nous. Donc ne prenons pas des têtes d'enterrement. Parce que ce n'est pas Jésus qui nous enterre quand on reçoit le corps et le sang du Christ. Donc voilà, c'était un petit aparté, mais je voulais le dire au début, puis j'ai oublié. Voilà, donc on trouve vraiment des choses importantes dans les évangiles. Alors c'est vrai qu'on retrouve aussi au moment de la transfiguration, hein, je suis toujours dans Saint Matthieu au chapitre 17, « Il parlait encore lorsqu'une nuée lumineuse les couvrit de son ombre, et voici que de la nuée une voix disait, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie, écoutez-le. » Vous voyez, on reprend les mêmes termes qu'au moment du baptême. C'est vrai qu'il y a une forme de parallélisme, une forme d'écho entre la transfiguration et le baptême, entre le baptême et la transfiguration. Voilà, le Seigneur, celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie, écoutez-le. Voilà, il y a peut-être un ajout qui est de l'écouter. Saint Jean. Alors, Saint Jean, c'est vrai qu'on trouve beaucoup, beaucoup la dynamique de la joie. Par exemple, au chapitre 15, le verset 11, « Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. » Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Voilà ce que dit Jésus. Voilà, toutes les paroles que je vous partage, que je vous transmets, c'est vraiment pour que ma joie soit en vous. Je pense qu'il y avait chez Jésus une joie profonde, une joie profonde d'accomplir la mission que le Père lui confie. Le temps de la passion fut un temps rude. Le temps de la passion fut un temps de désolation. Le temps de la passion fut un temps de doute. Mais on peut aussi dire que le matin de la résurrection est un matin joyeux. C'est un matin joyeux. Puisque au chapitre 16, toujours dans Saint Jean, « Vous aussi maintenant vous êtes dans la peine, mais je vous reverrai, ce moment où Jésus dit qu'il va partir, et votre cœur se réjouira, et votre joie, personne ne vous l'enlèvera. » Donc Jésus s'adresse à ses disciples, « Votre joie, personne ne vous l'enlèvera. » Parole forte, je pense que cette parole a été vraiment nourrissante pour le pape François. « Votre joie, personne ne vous l'enlèvera. » Alors on trouve aussi quelques éléments, je passe, hein, dans Saint Paul, notamment aux Philippiens. C'est une parole peut-être qui s'adresse peut-être au pasteur, à moi en premier, mais aussi à tous les pasteurs. À tout moment, chaque fois que je prie pour vous tous, c'est avec joie que je le fais. Voilà, c'est Saint Paul, s'adresse aux chrétiens de Philippe. À tout moment, chaque fois que je prie pour vous tous. Des fois, je me dis, est-ce que je prie assez pour tous les habitants du diocèse de Besançon? Pas forcément assez. Est-ce qu'on prie assez les uns pour les autres? Est-ce que les pasteurs prient pour chacun d'entre vous, avec tout ce que fait votre histoire, ce que font vos histoires de vie? Voilà, je pense que je suis en train de préparer une lettre au prêtre pour le jeudi saint, c'est un scoop, hein. Mais voilà, je me dis, est-ce que j'ai vraiment dans ma prière tous les visages des prêtres aussi qui me sont confiés? Paul, à tout moment, chaque fois que je prie pour vous tous, c'est avec joie que je le fais. Et puis au chapitre 2 des Philippiens, alors pour que ma joie soit complète, ayez les mêmes dispositions, le même amour, les mêmes sentiments, recherchez l'unité. Voilà, Saint Paul dit, voilà, pour que ma joie soit complète, ayez les mêmes dispositions, le même amour, les mêmes sentiments, recherchez l'unité. Alors, et puis au chapitre 4, toujours dans les Philippiens, c'est surtout dans les Philippiens que j'ai trouvé le thème qui traverse l'épître de Paul, chapitre 4, le verset 4, c'est une invitation forte, je trouve. Soyez toujours dans la joie du Seigneur. Je le redis, soyez dans la joie. Comme si, au fond, notre bonheur, pour reprendre un peu le thème qui traverse les conférences de Carême, le bonheur, c'est d'être dans la joie avec le Seigneur. Voilà. Dans Vatican II, ça va pour l'instant? Vous dormez pas trop? Bon. Il me reste 10 minutes, ça va être dur, hein? Mais Franck me dit, si vous dépassez 2 minutes, ça ira. Voilà, donc, par petit parcours hein, des textes, mais je crois que c'est pour peut-être aussi nous inviter chacun d'entre nous à écouter ces textes avec cette, je vais dire, ce schème, cette traverse de la joie, on verra quand même comme ça. Je vais dire, ça s'éclaire pour moi très profondément dans les textes de Pape François. Alors c'est vrai que dans Vatican II, il y a peu de moments où on parle de la joie. Ça m'a surpris. Je me dis, je vais trouver partout le terme de joie, mais non, je n'ai pas trouvé. Donc c'est intéressant de dire qu'on ne trouve pas. Alors bien sûr, le texte sur l'Église dans le monde de ce temps, hein, « Gaudium et Spes », commence comme ça. Les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des hommes de ce temps, des pauvres surtout, et de ceux qui souffrent, sont aussi les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des disciples du Christ. Il n'est rien de vraiment humain qui ne trouve écho dans leur cœur. C'est un très très beau texte de Vatican II, ça. Si un jour vous dites, ben, je pourrais faire une retraite personnelle avec Vatican II, lisez ce texte de Vatican II. Les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des hommes de ce temps, des pauvres surtout, et de tous ceux qui souffrent, sont aussi les joies, les espoirs, les tristesses, les angoisses des disciples du Christ. Au fond, dans ce texte, le Concile Vatican II nous dit « Nous sommes solidaires de toute l'humanité. Nous sommes solidaires de toute l'humanité. » Alors, on commence par la joie, mais les espoirs, les tristesses, les angoisses. Donc, c'est dans Gaudium et Spes numéro 1. Et puis, après, il n'y a plus grand-chose. Non, je ne vais pas dire comme ça. On trouve les autres éléments dans le texte qui concerne les prêtres. Ça m'a surpris un peu. Ça s'appelle, sur la forme, le ministère et vie des prêtres, sur leur formation, Presbyterorum Ordinis, c'est du latin, c'est un peu compliqué, hein. L'ordre des prêtres, c'est là qu'on trouve la joie, beaucoup. Comme si le concile disait aux prêtres, eh bien, votre ministère s'enracine dans la joie du Christ. Comme si aujourd'hui, le Concile avait déjà pensé que la vie des prêtres, elle allait être difficile, qu'elle allait être compliquée, qu'ils allaient surcharger, on dit surbooker aujourd'hui, hein, qu'ils ne savaient plus où donner de la tête, que les évêques en demandent trop aux prêtres, je vais le dire comme ça. Voilà, je me suis dit, tiens, peut-être le Concile avait perçu que le prêtre a besoin de s'enraciner dans la joie du Christ. Je lis au numéro 11. Il s'agit d'abord pour les prêtres d'avoir à cœur, Alors c'est le langage du concile, hein, de faire comprendre aux fidèles combien le sacerdoce est important et nécessaire, combien leur ministère sacerdotal est important. Ils y arriveront à la fois par leur prédication. Le texte nous dit que c'est important pour les prêtres de bien prêcher. Alors ne faites pas comme un curé il y a 70 ans, je pense qu'il est mort. Hein. On disait qu'il était long dans les homélies dès le début. Dès le début. Voilà, donc la prédication ne doit pas être longue dès le début. Dès le début. Ils y arriveront à la fois par leur prédication et par leur propre vie. Hein, ministère et vie des prêtres, notre vie doit être aussi une forme de témoignage, qui doit être un témoignage rayonnant d'esprit de service et, voilà, la pointe, de vraie joie pascale. Donc l'invitation qui est faite aux prêtres, c'est de vivre profondément de la présence du ressuscité dans leur vie ministérielle de prêtre. Je suis toujours, comment je vais dire ça, je dis impressionné et ému que le Seigneur et l'Église nous aient donné cette capacité ou ce pouvoir de faire du pain et du vin le corps et le sang de Jésus. Je vais dire, nous prêtres, nous devrions dire ces paroles en tremblant. Ceci est mon corps, prenez et mangez. Ceci est mon sang, prenez et buvez. Alors c'est vrai que le danger pour nous prêtres, c'est d'être dans une forme d'habitude, j'allais dire, de la célébration eucharistique, mais que le Seigneur et l'Église aient donné cette capacité aux prêtres de faire que le pain et le vin deviennent le corps et le sang du Christ et de l'offrir aux fidèles. Donc dans Presbyterum Ordini, ce qu'il nous a donné, c'est vraiment l'enracinement dans la joie pascale. Voilà, donc peut-être que nous, prêtres, on peut relire Presbyterum Ordini. Ça va comme ça? Ah, je vais quand même vous lire encore un petit passage. Il parle des évêques, donc ça me va. Voilà, c'est au numéro 14. La charité pastorale exige donc des prêtres. S'ils ne veulent pas courir pour rien, c'est beau ce passage. La charité pastorale des prêtres, s'ils ne veulent pas courir pour rien, un travail vécu en communion permanente avec les évêques et leurs autres frères dans le sacerdoce. Il y a deux manières d'être en communion pour les prêtres, à la fois avec leur évêque et avec les autres prêtres. Je veux dire, c'est presque mis sur au même niveau. Voilà. Tel sera pour les prêtres le moyen de trouver dans l'unité même de la mission de l'Église, l'unité de leur propre vie. Là, le Concile insiste vraiment beaucoup. Ainsi ils s'uniront à leur Seigneur et par lui au Père, dans l'Esprit Saint, la Trinité. Ainsi ils pourront être tout remplis de consolation et surabondés de joie. C'est un très beau passage, c'est le numéro 14. Que les prêtres puissent, dans leur ministère, ne pas courir pour rien et puis trouver le moyen de l'unité au sein de leur mission. Nous savons bien que la question de l'unité au cœur de chacun d'entre nous est une question, je trouve, qui est complexe. Parce que nous sommes souvent éparpillés, j'allais dire comme ça. Nous sommes souvent éparpillés, nous sommes souvent partout. Ah, si on est partout, c'est qu'on est nulle part, pour le dire comme ça. Donc c'est vrai que la question de l'unité de vie, je crois que c'est vraiment une forme de, j'allais dire, de travail, quasiment de combat. Une petite anecdote, je crois que c'est, on demandait à un moine qui a 95 ans, je crois, qu'est-ce qui était dur dans votre vie de moine? Il répond, la prière. À 95 ans, c'était tant. Donc ça veut dire qu'il avait bien conscience que ce travail de sa responsabilité de moine est de prier, tout simplement. Au fond, un moine, ça sert à quoi? À prier, pour le dire comme ça, prend toute une vie. Et on sait bien que nous aussi, l'unité de notre vie, ça prend vraiment toute notre vie. Alors, je passe rapidement sur le pape François, mais vous connaissez sans doute davantage ses textes, donc je pourrais aller plus vite et peut-être vous inviter à les lire. Premier texte du pape François, la joie de l'Évangile. Premier texte, la joie de l'Évangile. Hein. Alors, je vais vous lire le numéro 1. La joie de l'Évangile remplit le cœur et toute la vie de ceux qui rencontrent Jésus. Tout est dit. La joie de l'Évangile remplit le cœur, notre cœur, et toute la vie de ceux qui rencontrent Jésus. Le pape dit bien le cœur. Il n'a pas dit l'intelligence, là. Il a dit le cœur parce que c'est le cœur qui s'ouvre véritablement au Seigneur et toute la vie de ceux qui rencontrent Jésus. Et ce passage poursuit. Avec Jésus-Christ, la joie naît et renaît toujours. Avec Jésus, la joie naît et renaît. C'est-à-dire qu'on peut la perdre si elle renaît. Et le pape insiste toujours. Rappelez-vous ce que je disais au début sur cette connaissance que le pape a de la misère du monde, de la souffrance, des tensions à tout niveau, chez chacun d'entre nous, dans nos couples, dans nos familles, dans notre village, dans notre pays, sur la terre. Et pourtant, il insiste beaucoup sur la dimension de la joie, parce que c'est la présence de Jésus en nous. Quand on aime quelqu'un, quand on est aimé par quelqu'un, il y a une joie profonde. Et les événements qui nous touchent ne nous touchent pas de la même manière si on sent véritablement cet amour commun qui traverse nos vies. Qui traverse nos vies. Voilà ce que nous dit. Et le pape nous dit, dans cette exhortation, je désire m'adresser aux fidèles chrétiens pour les inviter à une nouvelle étape évangélisatrice, c'est pour nous ça, marquée par cette joie. Marqué par cette joie et indiquer des voies pour la marche de l'Église dans les prochaines années. Ce texte, je pense qu'on peut toujours le relire parce que c'est en gros le programme du pape quand il est arrivé au siège de Pierre. Et premier chapitre s'intitule hein, « Une joie qui se renouvelle et se communique ». Une joie qui se renouvelle et se communique. Et un petit passage. « Quand la vie intérieure se ferme sur ses propres intérêts, il n'y a plus de place pour les autres. Quand on est enfermé sur soi-même, il n'y a plus de place pour les autres. Les pauvres n'entrent plus. On n'écoute plus la voix de Dieu. On ne jouit plus de la douce joie de son amour. » C'est beau ce texte. La douce joie de l'amour de Dieu. La douce joie de la vie de Dieu. Donc quand on est enfermé, eh bien le Seigneur ne peut pas nous communiquer la douce joie de son amour. Et puis, dans le passage 3, il dit « Personne n'est exclu de la joie que nous apporte le Seigneur. Personne n'est exclu de la joie que nous apporte le Seigneur. » J'ai rencontré hier une personne qui, je ne pense pas qu'elle soit ici, donc ça va, qui est de tradition évangélique et va devenir catholique. Donc, j'ai accueilli, on a partagé. Elle s'est mise à pleurer. Elle m'a dit, bon, ça m'arrive comme ça. Je dis, pas peur, il n'y a pas de honte à pleurer. Pleurer parce qu'elle avait rencontré le Seigneur. Je lui dis, mais c'est des larmes de joie, c'est pas des larmes de tristesse que vous exprimez. Il peut y avoir des larmes de joie. Alors je sais que pleurer est peut-être plus familier chez les dames que chez les messieurs. Un homme, ça pleure pas quand même. Peut-être trop de quant à soi, on ne va quand même pas se montrer fragile, nous les hommes, quand même. Voilà, peut-être qu'il faut qu'on apprenne, nous, à avoir un cœur tendre et savoir de temps en temps pleurer aussi. J'ai bientôt fini, hein, n'aie pas peur. Voilà, je vais passer sur Evangelii Gaudium, mais vraiment, vous pouvez le relire, parce qu'il y a vraiment beaucoup de très très beaux passages. Un autre texte que vous connaissez sans doute, hein, c'est sur la fraternité et l'amitié sociale, Fratelli Tutti. C'est un texte, pour moi, un des trois textes importants du pape François sur la fraternité et l'amitié sociale. Alors le terme amitié sociale, il est très nouveau dans le vocabulaire. Je pense que c'est peut-être le pape qui l'a utilisé en premier. Et il dit, voilà, c'est véritablement l'enjeu de l'humanité, développer la fraternité et l'amitié sociale. Voilà, donc il nous dit voilà, que cette dimension de l'amitié sociale, telle que l'exprimait François d'Assise, puisqu'il a repris ce terme de François d'Assise, Fratelli Tutti, puisque Fratelli Tutti écrivait Saint François d'Assise en s'adressant à tous ses frères et sœurs, pour leur proposer un mode de vie au goût de l'Évangile. Voilà, au goût de l'Évangile. Elle dit ce saint de l'amour fraternel, parlant de François d'Assise, de la simplicité et de la joie. Ce saint de l'amour fraternel, François, de la simplicité et de la joie. François d'Assise était un homme profondément joyeux qui m'a inspiré, dit le pape, l'écriture de l'encyclique Laudato Si, me pousse cette fois-ci à consacrer la présence nouvelle encyclique à la fraternité, à l'amitié sociale. Troisième texte que je voudrais souligner, bien sûr, c'est Amoris Laetitia, la joie de l'amour, un très très beau texte sur la vie de la famille. Voilà ce que dit le pape. La joie de l'amour qui est vécue dans la famille est aussi la joie de l'Église. La joie de l'amour qui est vécue dans les familles est aussi la joie de l'Église. Ce que j'exprimais un peu tout à l'heure, si la joie n'est pas au cœur des familles, eh bien les familles seront très tristes. Il faut faire la joie. J'allais dire faire la fête, mais non, il faut aussi être joyeux et se réjouir. Je pense que c'est important de se réjouir aussi. Donc sur la joie de l'amour, Amoris Laetitia. Et puis le dernier texte que je voulais citer, c'est pour les intellectuels un peu plus celui-ci, hein, mais ça fait rien. C'est la joie de la vérité. Voilà, le texte a écrit, le pape a écrit un texte à, j'allais dire, aux universités principalement, aux universitaires, en leur disant « cultiver la vérité ». Et il intitule « La joie de la vérité ». Vous voyez que le terme « joie » traverse vraiment les textes majeurs du pape François. Hein, « La joie de la vérité » et le premier paragraphe dit ainsi « La vérité de la joie exprime le désir poignant qui rend le cœur de tout homme inquiet tant qu'il ne trouve pas. » Tant qu'il ne trouve pas. Au fond, la recherche de la vérité est un travail continu. Parfois, je me dis, quelqu'un qui me dit « voilà, j'ai trouvé Dieu et je sais qui il est, j'ai plus besoin de le chercher, je suis inquiet. » Je serais inquiet qu'il me dirait « ça y est, j'ai trouvé Dieu, je l'ai mis dans ma poche, dans mon sac, j'ai plus besoin de le chercher. » On dit aussi que la vie monastique, c'est la vie de la recherche continue de Dieu. C'était un des thèmes qu'avait développé beaucoup Benoît XVI lorsqu'il était venu au Bernardin à Paris sur la recherche de Dieu, et là c'est la recherche de la vérité. Donc tout homme inquiet tant qu'il ne trouve, n'habite et ne partage pas avec toute la lumière de Dieu. Et le pape poursuit, et ça pour moi c'est très 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 important, la vérité c'est Jésus-Christ. La vérité n'est pas un concept, n'est pas une idée, n'est pas une manière de penser, la vérité c'est une personne. Alors quand on dit que la vérité est une personne, ça veut dire qu'on ne peut pas l'enfermer dans une manière de percevoir, j'allais dire, un objet de l'intelligence, pour le dire comme ça. Vous suivez ? Ça veut dire que la vérité, c'est toujours une question de relation derrière. C'est toujours une question de la relation. Et cette parole, moi, qui me marque beaucoup dans les évangiles, c'est la parole de Jésus dans l'évangile de Jean. « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Le chemin, la vérité et la vie. La vérité, elle est là, c'est Jésus-Christ. Donc, tous les universitaires ont peut-être besoin de se dire, au fond, le but de la recherche intellectuelle, c'est de percevoir comment Jésus-Christ façonne notre humanité et le monde tel que dans lequel nous vivons. Voilà, je termine. Je vous ai promis quand même. J'ai dépassé, hein. Excusez-moi. Mais on a dû commencer un petit peu après. Hein. Voilà. Donc, je ne vais pas payer plus cher pour les cinq minutes qui me restent. Je voulais simplement terminer en citant l'Apocalypse. Là, j'ai commencé par la Genèse, je termine par l'Apocalypse. L'Apocalypse aussi, qui est traduit en langue anglaise par le livre de la Révélation. C'est vrai qu'en français, c'est un peu étrange le mot Apocalypse. Hein. On dit ben, c'est l'Apocalypse, alors on dit c'est la fin de tout. Non, l'Apocalypse, c'est Dieu qui se révèle dans toute sa grandeur et la globalité de ce qu'il est, de ce qu'il donne au monde. Et puis je trouve que ça introduit bien à une Eucharistie. Voilà ce que dit l'Apocalypse. « Soyons dans la joie, exultons et rendons gloire à Dieu. » Terme des temps, pour le dire comme ça, l'invitation qui est faite, c'est d'être dans la joie. « Exultons et rendons gloire à Dieu, car elles sont venues les noces de l'agneau. » Quand je lis les noces de l'agneau, j'entends souvent ce qu'on récite avant la communion eucharistique, voici l'agneau de Dieu, ou agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, et pour lui son épouse a revêtu sa parure. Au fond, demain, quand nous serons totalement immergés en Dieu, c'est la joie qui sera au cœur de notre vie éternelle. Je vous remercie. Pour quelques questions, voilà, donc n'hésitez pas. Béranger, notre technicien de choc, va assurer le transport du micro. J'en ai trois, mais je vais en poser qu'une. Je commence. Je n'aurais pas voulu qu'on me la pose, alors. Aux Philippiens, si on a bien entendu, saint Paul dit « Soyez dans la joie », il le répète, hein, « Soyez toujours dans la joie ». Est-ce qu'on peut exiger, saint Paul le fait, en tout cas pour ses frères de Philippe, est-ce qu'on peut exiger cette joie? Est-ce que ça se commande? Est-ce qu'on peut dire à quelqu'un, mais sois dans la joie?
Oui, c'est vrai, il n'y a pas de commande, entre guillemets, mais je pense que, entendant cette invitation de Paul, ça peut nourrir notre réflexion et notre manière de vivre. Voilà, peut-être une invitation, mais c'est vrai que, je vais dire, la joie ne se commande pas, mais elle peut peut-être se préparer, pour le dire comme ça. Lorsqu'on va faire la fête, on prépare un beau repas, on prépare la maison, etc. Mais et la joie vient après, quand tout le monde est là. Mais il y a bien une forme de préparation. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas de commande. Même si, alors, je parle sous ton contrôle, hein, pour moi, ce n'est pas simplement un sentiment, la joie. Je vais dire, c'est un état qui bouge tout le temps, pour le dire comme ça. Et la joie, ce n'est pas uniquement un sentiment. Si c'est qu'un sentiment, ça sera au gré un peu de nos émotions. C'est aussi une réalité qu'on pourrait presque dire théologale et sacramentale, pour le dire comme ça. C'est un peu plus compliqué. Hein. C'est-à-dire, c'est une réalité de Dieu qui est en nous, puisque le Père dit « Ma joie, c'est Jésus ». Et on pourrait ajouter « Ma joie, c'est chacun d'entre vous ». Dieu nous dit « Ma joie, c'est chacun d'entre vous ». Donc si la joie de Dieu vient en nous, on peut la laisser se développer. Je ne sais pas si elle répond à la question, mais au moins,
si, très bien.
C'est un début de réponse.
Merci. À vous de jouer maintenant.
Sinon, il y a encore deux questions, vous avez entendu. Hein.
Mais c'est vrai. Yvette.
Par rapport à ce que vous disiez sur la joie, je voudrais partager une image qui me parle beaucoup. Il y a une mer, et il y a des vagues au-dessus, il y a nos pépins, nos souffrances, notre péché, nos inquiétudes. Et puis en dessous, il y a tout un niveau où ça ne bouge pas, où c'est toujours là, dont on n'est pas forcément toujours conscient. Mais c'est la joie du Seigneur et de sa présence qui est là. Et qui, elle, ne bouge pas et qui, elle, est permanente.
Merci. C'est vrai aussi qu'en préparant ces petits propos, mais merci de me l'avoir proposé, parce que du coup, ça me fait aussi... ça m'interpelle et ça m'invite aussi à la conversion. Vous savez, un évêque comme un prêtre, ça passe son temps à résoudre des problèmes, un peu. Voilà, donc au-delà des difficultés du monde d'aujourd'hui, il faut éteindre le feu parfois un peu partout, il y a des feux de broussailles, il y a des feux plus importants, je me dis, mais quel est le fond de ta vie de prêtre, pour le dire comme ça, ou d'évêque? Et je trouve que c'était pour moi, je vais le dire comme ça, une grâce de m'avoir invité aussi dans cette dynamique de prendre conscience de ce qui traverse. Et c'est vrai, comme je l'ai dit au début, c'est vraiment l'interrogation du pape François qui m'interpelle beaucoup. C'est vraiment l'interrogation du pape François. Il parle de la joie tout le temps, alors que c'est pas facile. Puis sa santé est fragile en ce moment, en plus. Hein. Voilà, donc vous avez raison de dire, au fond, il y a un fond qui est là. Il y a un fond qui est là, malgré la mer agitée, peut-être au-dessus. Voilà, dans la profondeur de la mer, c'est quand même beaucoup plus calme. Et dans les profondeurs de notre mer personnelle, il y a ce fond, une forme de certitude
non pas physique, mais une certitude de que le Seigneur, il est là et qu'il nous donne cette joie profonde.
Seigneur, vous avez parlé de la joie. Est-ce que bon, nous pouvons nous réjouir tout simplement parce que Dieu nous aime ou parce que, comme dit le psalmiste, sa joie est notre rempart?
Peut-être les deux. Oui, on peut, bien sûr qu'on peut se réjouir parce que le Seigneur nous aime. Est-ce que, des fois, je me dis, est-ce qu'on dit en parole à Jésus « Merci de m'aimer » et « Jésus, je t'aime ». Jésus, je t'aime. Mais aussi, le psaume est toujours une richesse pour notre vie. Hein, la joie du Seigneur est notre rempart. C'est-à-dire que c'est sa joie qui dépasse ce que nous pouvons, nous, bien sûr, vivre et expérimenter. Mais il y a sans doute les deux éléments qu'il faut retenir. Merci.
Peut-être la dernière question ?
Voilà, j'ai bien conscience qu'on est dans une forme de, je veux dire, de paradoxe dans le monde d'aujourd'hui. Hein. Ce monde est seulement un monde quand même en souffrance, mais voilà, de se dire, le Seigneur est avec nous et cette présence en nous est une présence joyeuse. Voilà, merci. Merci Franck.
Un grand merci Monseigneur pour cette conférence qui n'était longue ni au début ni à la fin.